Place Info.
Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement étrangers à Paris lundi pour les funérailles de Jacques Chirac et près de 4000 personnes ont déjà signé le livre d'or mis à la disposition dans la cour de l'Élysée. Demain, dernier adieu à Jacques Chirac, aux Invalides, cérémonie populaire. Que retiennent les Français de l'ancien président, lui qui en 2007, en quittant la vie publique, nous disait ceci.
Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre.
Ironie du calendrier, Marion Maréchal Le Pen clôture en ce moment une convention de la droite, le nom donné par ses proches à une réunion organisée pour construire une alternative conservatrice à Emmanuel Macron. De quel espace politique peut-elle profiter et une telle initiative est-elle vouée à l'échec? Allez, on en débat avec nos informés, avec Anita Auxerre, éditorialiste, ancienne journaliste de TF1 et LCI, ancienne chef du service politique qui a rencontré et interviewé, éditorialiste toujours, et qui a rencontré, interviewé à de nombreuses reprises Jacques Chirac, comme nos autres invités dans ce studio, Dominique de Montvallon, éditorialiste politique. Bonsoir. Vous avez dirigé les rédactions du Parisien aujourd'hui en France pendant des années, rédacteur en chef du Journal du Dimanche. Vous aussi, vous avez bien connu Jacques Chirac comme Philippe Gouliot, correspondant à l'Élysée de l'AFP et du Figaro à l'époque, auteur de l'incroyable septennat Jacques Chirac à l'Élysée 1995-2002, toute la période. Et à vos côtés, Stéphane Rosès, président de la Société de Conseil Cap. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télévision, canal 27 de la TNT. Demain à 14h, donc, l'adieu des Français à Jacques Chirac. Le cercueil du président sera présenté à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides pour un dernier hommage populaire à un homme qui a profondément marqué la Ve République. Ce matin, près de 4000 personnes avaient signé les registres de condoléances ouverts à l'Élysée.
Un grand homme d'État, comme on en a plus beaucoup, voilà, dans le monde, je pense.
Je le remercie pour le discours du Veldiv. Je le remercie d'avoir fait rentrer les justes au Panthéon, pour avoir refusé la guerre en Irak et pour son discours de Johannesburg.
On voyage à Paris et on s'est dit que ça serait un minimum de rendre hommage au dernier président de l'ancienne génération.
Et des registres sont aussi ouverts dans d'autres endroits, en mairie notamment, la mairie de Paris. Les Français se pressent aussi devant son domicile rue de Tournon. Philippe Gouliot, Jacques Chirac, il était extrêmement pudique. Est-ce qu'il évoquait dans ces dernières années le legs qu'il souhaitait laisser aux Français ou à la France?
Non, jamais. En fait, Jacques Chirac est quelqu'un, contrairement à beaucoup d'hommes politiques, qui n'a jamais cherché à ériger sa propre statue. Il était assez, probablement assez sûr de lui-même, en réalité. On a beaucoup dit qu'il ne s'aimait pas. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il était assez sûr de lui-même, mais il n'a pas cherché à imposer son image comme celle d'un grand homme d'État, d'un grand réformateur, mais il a fait des choses, il a marqué, il a laissé des pierres blanches derrière lui. Par exemple, le musée du Quai Branly dit beaucoup de son legs, précisément. La dernière intervention qu'il a faite, qu'on a vu tout à l'heure, appelant les Français à ne pas sombrer dans l'extrémisme, des choses comme ça. Le discours de Johannesburg aussi, le discours du Veldiv et le discours sur les justes. Donc tout ça, c'est ça son legs. Et je crois que ce que les Français soulignent dans cette émotion, à travers cette émotion que l'on ressent actuellement, c'est leur attachement à la cohésion nationale que Jacques Chirac a défendue.
Et notamment des personnes très jeunes qu'on a vues dans la cour de l'Élysée. Comment
absolument.
L'explique Stéphane Rosès, des personnes qui n'ont pas forcément connu, pour le coup, le septennat puis le quinquennat de Jacques Chirac à l'Élysée?
Sans doute, pour les plus jeunes, ce qu'ont pu en dire les parents, et puis au fond, une mémoire qui perdure dans le peuple, quelle que soit la grande personnalité. Au fond, la carrière, on le sait, de Jacques Chirac a été très longue, et ce que les Français retiennent, c'est essentiellement la dernière période. Une période où il était un peu couturé, mais où, en dépit de tout, il avait réussi un équilibre qui n'est pas évident pour un président de la République, et à la fois de très bien incarner la fonction présidentielle, notamment lors de la cohabitation avec les socialistes, c'était pas évident, et en même temps une proximité. On a tous en tête anecdote de quelqu'un dans la rue qui l'injurie, voilà.
Moi, c'est Chirac.
Ouais. et lui de répondre avec une certaine hauteur et sans agressivité, voilà, ça change beaucoup avec Nicolas Sarkozy, par exemple, et dans le même temps, il était très proche des Français. Donc ce subtil équilibre était important. Et puis effectivement, moi j'ai travaillé confidentiellement pour lui de 94 à 2017, et surtout dans la toute dernière période après la mort de Pilon, avec Claude Chirac. J'ai pas bien connu Jacques Chirac, je l'ai pas vraiment connu. Par contre, j'ai beaucoup travaillé avec sa fille. Et ce qui est vrai, c'est que chez les Chirac, on ne se met pas en avant, comme si les difficultés personnelles dans la famille Chirac, notamment la fille de Jacques Chirac, les difficultés avec Laurence Chirac, avaient au fond imprimé à la famille Chirac une grande modestie, comme si l'essentiel n'était pas dans le paraître, comme si l'essentiel c'était les questions intimes. Et la grande culture de Chirac, par exemple, on le sait, sur les arts premiers, enfin Malraux disait les arts primordiaux, Chirac le gardait pour lui. Hein, donc il y avait vraiment deux Chirac.
Anita Auxerre.
Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les Français n'ont pas seulement retenu la dernière période, c'est la première et la dernière. Pendant sa première période, c'est-à-dire la période qu'on peut appeler corrézienne, où il a forgé son image de proximité, d'homme en campagne, qui boit des coups avec ses copains et qui tâte le cul des vaches, c'est quand même resté très ancré dans l'imagerie populaire. En ce qui concerne les jeunes, je crois que pour eux, c'était devenu un papy, un grand-père, parce qu'ils n'ont effectivement pas bien connu, mais ils le connaissent à travers les guignols, il faut bien le dire, et aussi à travers ces formules qui sont reprises régulièrement. Et donc, ils ont envie d'aller lui rendre hommage. Moi, j'ai été très frappée, effectivement, par le nombre de jeunes qu'il y avait dans les files d'attente à l'Élysée.
Et on va continuer à décrypter
sous Chirac.
Ce phénomène de génération Chirac, peut-être. Hein, une question à poser juste après le rappel de l'info, 20h10, sur France Info, avec Guillaume Fariol.
La qualité de l'air dans un état habituel à Rouen, c'est ce qu'assure le préfet de Seine-Maritime. Il a présenté les résultats de nouveaux tests après l'incendie de l'usine Lubrizol il y a 2 jours. En ce qui concerne les retombées de suie, les autorités le répètent, pas de toxicité aiguë. Des députés de gauche réclament l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Tous les Français pourront y participer au match populaire demain à Jacques Chirac aux Invalides. Lundi, jour de deuil national, une cérémonie religieuse organisée en l'église Saint-Sulpice à Paris. Service solennel présidé par Emmanuel Macron, une trentaine de dirigeants étrangers présents, attendus également les 3 anciens présidents, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande. À Paris, Bordeaux, Lille ou encore Marseille, des rassemblements cet après-midi pour la journée internationale du droit à l'avortement. Avec ce chiffre du planning familial aujourd'hui, l'an dernier 47 000 femmes sont mortes dans le monde des suites d'une IVG clandestine. En Afghanistan, premier tour de l'élection présidentielle marqué par plusieurs attaques des talibans. Aujourd'hui, des bureaux de vote visés. Il y a au moins 5 morts et une trentaine de blessés. Les résultats définitifs pas attendus avant novembre. 8e journée de Ligue 1 de football. 5 matchs en ce moment. Ils ont débuté il y a une dizaine de minutes. Déjà 1-0 pour Metz face à Toulouse. 0 partout entre Nice et Lille. Pareil pour Monaco-Brest. Et puis plus tôt cet après-midi, défaite de l'OL à domicile. 1-0 face à Nantes. Le PSG s'impose à Bordeaux. 1-0 là aussi.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
L'un de ses derniers discours à l'Élysée, Jacques Chirac, c'était en 2007. Il annonçait ne pas briguer un nouveau mandat. Et cette déclaration d'amour aux Français, écoutez.
La France, mes chers compatriotes, je l'aime passionnément. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma force, à son service, à votre service. Servir la France, servir la paix, c'est l'engagement de toute ma vie.
De Montvallon, on a là, dans ces quelques secondes, au fond, une sorte de testament politique de Jacques Chirac, ce qu'il aurait souhaité que la France...
Oui, ce sont des phrases fortes. Et ce sont des phrases qui ont imprimé, qui impriment aujourd'hui, et qui expliquent au fond... Oui, l'émotion presque générale après le décès de l'ancien président de la République. Je veux juste ajouter ceci, c'est que je m'y attendais à cette émotion, mais je suis surpris de sa spontanéité et de son ampleur. Et je dis ça parce que... Mais c'est bien, c'est bien. Je dis ça parce que au moment où on parle de Jacques Chirac, on peut pas oublier qu'il a été qu'il a accompagné 40 ans de notre et dirigé parfois souvent pas seulement à l'Élysée car il a marqué 40 ans de notre vie publique, mais il a été très longtemps contesté, condamné, rejeté. Et même pour certains, en dehors de ce qui est normal dans le champ politique, méprisé. Donc il y a une sorte de revanche posthume qui n'a aucun caractère automatique, mais qui est méritée. C'est-à-dire que aujourd'hui viendra le moment où on s'interrogera sur le bilan concret de ce qu'il a fait. On le fait un peu, mais c'est pas encore le moment là. Aujourd'hui, on reconnaît l'homme qui dit « j'aime la France, j'aime les Français ». Et les Français lui disent « dont acte ». Alors, dont acte, on aime ça.
Justement, Dominique de Montvalon, est-ce que c'est l'homme à qui on pardonne tout, hein? On est dans une période où on parle d'exemplarité de la vie publique, de non-cumul, de moralisation. Alors lui, la condamnation, tout le monde semble lui pardonner. Les zones d'ombre, le cumul des mandats, c'était aussi un autre temps de la vie politique française.
Je comprends votre question, si je puis me permettre, je la partage pas. Mais
pouvez-vous permettre.
C'est la loi du dialogue, hein. On lui a fait des reproches, on l'a condamné.
Plus que des reproches.
Plus que des reproches. À l'époque, pour ne parler que de cette séquence, hein, sinon on ne parlerait pas de Chirac aujourd'hui comme ça, la fameuse séquence 1994-1995, celle qui finalement lui a permis de terrasser contre tous les pronostics, tous les pronostics, Édouard Balladur qui était devenu son rival, et d'accéder finalement à l'Élysée. C'était des moments d'isolement très forts. C'était des matchs et des combats qui n'étaient pas gagnés d'avance. Il y en a eu des tas d'autres. Alors, je sais pas, moi j'ai envie de vous dire simplement, je suis pas aujourd'hui béat de disant Chirac parfait de bout en bout, ce serait grotesque, mais je trouve normal et sain, S.A.I.N., que à l'heure de sa mort, on pense pour une fois d'abord aux actes positifs qui ont été les siens, et au fait qu'il a su, quelque part, c'est ce que les Français disent, il a su incarner la France, au moins pendant les 12 ans de l'Élysée. Pas seulement l'incarner, mais l'incarner.
Stéphane Rosès.
Dominique de Montfalon a tout à fait raison de rappeler, du fait de la longévité de Jacques Chirac, de sa personne, de son dynamisme, de son vitalisme, à quel point il a été attaqué. Moi, je me souviens, on a tous en tête une cover de l'Obs, à la fin des années 70, début des années 80, genre Chirac fasciste. Enfin bon. Donc on n'imagine pas ce qu'ont été
ce surnom,
les différents...
Fachon Chirac.
Fachon, oui, quelque chose comme ça. Donc on n'imagine pas ce qu'ont été ces différentes séquences. Et beaucoup ont dit, à juste titre, qu'au fond, Jacques Chirac était très français. Nous sommes une nation qui est faite à la fois de disputes, de diversité d'origine, d'un départ, et nous aspirons au commun. Et Jacques Chirac, à mon avis, surtout dans la dernière période, a su tout à fait incarner ça. Hein. Quand je travaillais confidentiellement pour lui pour la présidentielle de 2002, clairement, hein, il n'avait plus rien, sauf une chose. Durant la cohabitation avec Lionel Jospin, il avait préservé la fonction. Et quand Jospin fait la terrible erreur à l'américaine, hein, de l'attaquer, là, c'est la fin pour lui, parce que justement, la France n'est pas les États-Unis. On est un pays de tradition latine, pas protestante. Et donc, c'est pas qu'il lave plus blanc. Bref, Chirac, ça a été dit par Emmanuel Macron, il a raison, à la fois, il ressemblait aux Français.
Qui ressemble et qui rassemble.
C'est d'ailleurs une très belle phrase.
C'est vrai, c'est une formule, ou là, bon, la littération, mais c'est très juste au fond, et c'est ça qu'on va retenir à un moment où les Gilets jaunes ont terriblement diviser le pays. Pourtant, Jacques Chirac aussi, en son temps, en 95 aussi, fait un tête-à-queue. Hein. Comme Macron, il se prend le mouvement social de 95. On travaillait ensemble, Dominique dirigeait Le Parisien et moi je faisais les sondages pour CSA. Ça avait été très très dur parce que comme Macron, une fois élu, il fait un tête-à-queue sans le dire et il se prend en retour de voler le pays. Mais Chirac dit « les Français sont conservateurs, il arrête ». Là où Emmanuel Macron et son entourage non seulement ne comprennent pas les gilets jaunes au départ, mais restent sur des positions qui vont terriblement radicaliser le pays.
Bon. Et d'ailleurs, en très peu de temps.
Donc, ça renseigne aussi du moment actuel. Si on est, et je suis d'accord avec Dominique, moi-même aussi, j'étais un peu étonné. Hein. Je savais parce que vous savez qu'il était malade, pas bien, et ceux qui aimaient les Chirac étaient bon, un peu tristes. Mais ça renseigne du moment actuel. actuel français. Le moment actuel français, c'est le rassemblement et la projection dans l'avenir. Or, les gestes que retiennent les Français de Chirac, le refus de la guerre en Irak, le fait de peser au plan international face
la
à Helsinki, Clinton, c'est l'idée que la France... elle compte dans le monde et elle a besoin d'être rassemblée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Philippe Gouliot, justement, alors Stéphane Rosès évoquait cette inspiration que peut être quelque part Jacques Chirac, qu'il pouvait être pour ses successeurs, ça a tardé. Hein. Enfin, moi, je me souviens, après 2007, Nicolas Sarkozy, il ne le prenait pas forcément pour exemple. Ce n'est qu'ensuite pour François Hollande.
Mais au bout d'un an, sa popularité montait justement parce que Sarkozy clivait. Et donc, on revoyait différemment le roi fainéant Chirac devenait...
Expression d'ailleurs que quelques reprises aussi, Nicolas.
Et d'ailleurs aussi parce que, précisément, Jacques Chirac avait compris qu'il ne devait pas gêner le pouvoir, le nouveau pouvoir de Nicolas Sarkozy et ne pas le critiquer, ne pas passer son temps à lui mordre les mollets. Et ça a servi beaucoup son image aussi, cette espèce de retrait de la vie politique après une carrière unique en son genre.
Mais Philippe Gouliot souligne, contrairement
Nicolas Sarkozy,
à ses successeurs,
qui était parti sur la rupture et qui après a fait marche arrière parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il fallait être plus rassembleur que cela.
Et contrairement à ses successeurs, souligné Philippe Gouliot, Jacques Chirac, quand il est parti, il est parti. Il ne s'est plus mêlé de son parti,
C'est aussi l'âge qui faisait
après,
que...
Après, oui, c'est une question de...
Il avait sa carrière derrière lui, donc c'était assez normal. Contrairement à Valéry Giscard d'Estaing, qui pouvait espérer revenir.
Dominique de Montballon, 20 secondes avant
le
rappel.
Je pense que quand les Français se reconnaissent en Chirac, ils se reconnaissent dans les contradictions de Chirac. Entre autres.
Ou dans ses évolutions.
Dans ses évolutions. Mais pour en citer une, par exemple, ils sont pour les réformes, en théorie, les juges indispensables.
Pour les voisins.
Et à partir du moment où ça les concernerait ou à partir du moment où ça devient concret, à ce moment-là, il y a un mouvement de recul. Donc il incarnait, c'est pas forcément glorieux, mais ça explique l'attachement de beaucoup de Français, toutes opinions confondues, à la personne de Chirac aujourd'hui. Il incarnait les contradictions françaises.
20h20 sur France Info, le rappel de l'information avec Guillaume Fariol.
À Rouen et aux alentours, les autorités décident de geler les récoltes dans les zones à risque. Le lait collecté ces derniers jours, les œufs et le miel sont consignés. Mesure de précaution, dit le préfet, 2 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. Les résultats de nouveaux tests présentés aujourd'hui, pas de toxicité aiguë. La qualité de l'air est normale selon les autorités. À plusieurs heures de queue à l'Elysée cet après-midi, des centaines de Français viennent signer les registres de condoléances après la mort de Jacques Chirac. Demain, hommage populaire ouvert au public aux Invalides. Lundi, cérémonie en l'église Saint-Sulpice à Paris. Une trentaine de chefs d'État et de dirigeants étrangers présents. Un service solennel présidé par Emmanuel Macron. Ses prédécesseurs François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing également attendus. 1300 manifestants, chiffre de la préfecture dans les rues de Nancy. Cet après-midi, un rassemblement contre le projet de stockage de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Une cinquantaine de manifestants cagoulés radicaux dans le cortège. Finalement, peu de dégradation. Le Pas-de-Calais placé en vigilance orange, vague submersion pour demain, des vents forts attendus combinés aux fortes marées. Prudence donc sur le littoral. En volée, les Français battus par la Pologne dans la petite finale de l'Euro. Ils terminent donc 4e. Demain soir, c'est la finale. La Serbie affronte la Slovénie. Et puis la grosse désillusion pour Renaud Lavillenie au Mondiaux d'athlétisme de Doha au Qatar. Le Français recordman du monde de saut à la perche éliminé dès les qualifications. Son frère, en revanche, Valentin Lavillenie, a qualifié pour la finale.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Chirac, le premier président d'un monde nouveau. C'est le titre d'un livre qui est paru en 2007 déjà, il y a 12 ans. Dominique Régnier, président d'un monde nouveau, écrivait-il sur Jacques Chirac. C'était l'année où le président quittait l'Élysée et où il disait ceci, toujours dans son discours, avant de quitter la présidence.
Enfin, il y a la révolution écologique qui s'engage. Si nous ne parvenons pas à concilier les besoins de croissance de l'humanité et la souffrance d'une planète à bout de souffle, nous courons à la catastrophe. C'est une révolution dans nos esprits, tout autant qu'à l'échelle mondiale qu'il faut mener. Pour concevoir un nouveau mode de relation avec la nature et inventer une autre croissance avec sa recherche, avec ses entreprises, avec son agriculture, avec l'avance qu'elle a prise dans le nucléaire et les choix résolus qu'elle a faits dans les énergies renouvelables, la France a tous les atouts pour relever ce défi majeur du 21e siècle.
Anita Hausser, on a tout dit sur Jacques Chirac. On a dit fainéant, énergique, pudique. Est-ce qu'il était visionnaire quand même, sur l'écologie ?
Ça, c'était un discours visionnaire. Aujourd'hui, quand on voit tout le débat et tout le autour du réchauffement climatique, il l'a dit.
C'est l'un de ses quatre messages. Hein. Il fait l'Europe, le pays, la paix et l'écologie.
C'est totalement d'actualité.
Mais moi, ça rejoint ce que je voulais dire à propos de Jacques Chirac, c'est que c'était un grand pragmatique, un visionnaire sur les questions écologiques, mais surtout un grand pragmatique dans sa politique. C'est pour ça, ce qu'on a appelé des retournements, c'est aussi des adaptations à la situation. Quand il a parlé de fracture sociale, c'est vrai qu'il a été élu sur la fracture sociale, et que quelques mois plus tard, peu de temps plus après, il a pris le tournant de la rigueur. Et ça, évidemment, on a dit, c'est un retournement, c'est une volte-face. On lui a reproché d'avoir rejeté l'euro, et ensuite d'être revenu à... précédemment, et d'être entré dans l'euro, même de demander à l'Angleterre d'entrer dans l'euro. Enfin, il sentait les choses, il n'arrivait pas toujours à les faire.
Oui, Philippe Gouliot, pardon, juste en 2007, pour rester vraiment sur ce moment précis où il quitte l'Élysée, vous écriviez « Mai 68, confronté à sa première crise sociale, il y puise la conviction que le tissu social de la France est fragile. » Est-ce que c'est là qu'il devient pragmatique, justement?
Certainement, surtout quand en mai 68, il était quand même extrêmement associé à toutes les négociations avec les syndicats. Il était très proche du Premier ministre Georges Pompidou, qui quand même, à un moment donné, a été vraiment en première ligne au moment de mai 68, le général de Gaulle ayant un peu perdu la main pendant quelques temps. Et effectivement, il a puisé cette conviction de la fragilité du tissu social, et je crois qu'il y a un autre élément aussi, c'est au moment de la contestation de la loi Devaquet en 1986, la mort de Malik Oussekine, et c'est quelque chose qu'il a vécu avec beaucoup de douleur et d'angoisse certainement, et qu'il a encore une fois persuadé qu'il fallait éviter à tout prix une fracture du tissu social, que la France ne pouvait pas affronter ces déchirements sans douleur et sans drame. Ça l'a sans doute freiné dans son élan réformateur, certainement.
Oui, c'était à la fois un intuitif et à la fois il ne s'en ferait pas. Vous avez raison de citer, mais oui, quand on dit, c'est Nicolas Sarkozy qui parlait de Jacques Chirac comme roi fainéant. Oui. Mais quand on reprend ces réformes, il y a eu des tentatives, il y a eu les privatisations, la réforme de la mort de Malik Oussekine arrête. Chirac dit, on arrête. Il dit, on arrête.
D'autant qu'il était à l'époque en cohabitation.
Il avait fait, bien sûr, mais il avait engrangé un train de réforme. 95, quand, avec Dominique au Parisien, nous sommes les premiers à faire les sondages qui montrent que, contrairement aux mouvements sociaux antérieurs, 2 Français sur 3 soutiennent le blocage du pays par les grévistes, la CGT et tout. Là, il y a 2 mois, mais il arrête aussi. Il dit les Français sont conservateurs. Ensuite, il va faire une dissolution dont il laissera à tort Juppé en première ligne, alors que c'était lui le problème. C'était pas Juppé. Bon. Mais c'était, Anita Hausser a raison, c'était un intuitif. Il sentait les choses. Quand il sent que ça va pas marcher, le Reagano-Thatcherisme, il devient travailliste.
Il n'était pas très à l'aise dans le Reagano-libéralisme.
Il n'était pas à l'aise. Bon, ensuite, il y aura en France le baladurisme. Mais c'est un intuitif, il sent les choses. On a dit qu'il comprend la France, il comprend les Français. C'était son point avec Mitterrand. C'est qu'à la fois, il comprenait l'histoire. Il était d'une famille Ratzok, mariée à une aristocrate. Mais il comprenait la France. Et donc, du coup, c'était un intuitif. Il sentait vite le coup de la fracture sociale, honnêtement. Bon, moi, j'ai connu aussi, comme vous, cette période. Et tout le monde disait qu'il était mort. Et il entend Todd reprendre Gauchet sur la fracture sociale. Et là, il sent ce qui se passe. Il sent le retournement antilibéral du pays. Oui. Mais il sent que là, il y a un petit espace et qu'il doit y aller. Et finalement, il va l'emporter.
Et on va continuer, évidemment, à parler de Jacques Chirac demain avec cette... cet hommage populaire aux Invalides demain à partir de 14h. En attendant, la météo et le journal sur France Info.
Toujours connecté à votre business avec Orange.
Moi, chez Orange, avec l'offre Connect Pro Fibre, je travaille plus vite.
Et moi, je fais des vidéoconférences avec mon équipe.
Et moi, j'ai fait enregistrer mon message d'accueil téléphonique par un studio pro.
Alors là, je reste sans voix.
Chez Orange, avec Connect Pro, profitez de la fibre jusqu'à 20 lignes fixes, 4 forfaits mobiles et des solutions pour rester toujours joignable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Votre BMW. Êtes-vous prêt à la laisser entre n'importe quelle main ? Chez BMW Service, nos techniciens ont en moyenne 10 ans d'expérience dans la marque, n'interviennent que sur des BMW et ont suivi plus de 240 heures de formation spécifique. C'est dire s'ils maîtrisent la technologie de votre véhicule. Jusqu'au 30 novembre, si votre BMW a plus de 6 ans, bénéficiez de 30% de remise minimum sur les principales opérations d'entretien et de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. BMW Service. Votre BMW est entre de bonnes mains. Offre valable dans le réseau BMW participant. Conditions sur bmw.fr.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
France Info, les prévisions météo de Jean-Michel Golinski.
Demain, une météo agitée et pluvieuse va s'installer sur un large quart nord-ouest du pays, au nord de la Loire le matin, puis vers le Poitou-Charentes, le centre et la frontière luxembourgeoise en seconde partie de journée, le tout poussé par un vent de secteur ouest turbulent vers 70 km à l'heure en général, 90 du Cotentin au Cap-Grinet. Les forts coefficients de marée, conjugués aux puissantes rafales, risquent de donner des phénomènes de vagues submersion la pleine mer de la mi-journée sur la côte d'Opale placée en vigilance orange. Plus au sud et à l'est, le soleil va résister, néanmoins le voile nuageux va s'épaissir l'après-midi sur l'Aquitaine, le Massif central et le quart nord-est, et le vent d'ouest va se lever vers 50 km à l'heure entre la Corse et le continent. Les températures, toujours au sud des moyennes, atteindront une trentaine de degrés au sud de la Garonne, 27 en moyenne près de la Méditerranée et en Rhône-Alpes, 24 sur l'Alsace et 18 à 20 dans la moitié nord.
Sur France Info, toute l'information avec Emmanuel Langlois. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Naïla, bonsoir à tous. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement étrangers dont Vladimir Poutine ont déjà annoncé leur venue après-demain à l'hommage solennel rendu à Jacques Chirac à midi en l'église Saint-Sulpice à Paris. François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore Valéry Giscard d'Estaing notamment seront également présents. D'ici là, un hommage public aura lieu demain après-midi aux Invalides à partir de 14h. Deux jours après le spectaculaire incendie de l'usine chimique Lubrizol, le parquet de Rouen a élargi l'enquête à la mise en danger de la vie d'autrui. Alors que l'inquiétude persiste dans la ville, au moins 5 personnes ont déposé plainte contre X suite à des vomissements et des malaises. 1300 à 2000 manifestants anti-nucléaires à Nancy aujourd'hui selon les sources, venus défiler contre l'enfouissement de déchets radioactifs à Bure dans la Meuse, à une soixantaine de kilomètres de là. Le cortège était encadré par 500 policiers mais s'est déroulé sans aucun incident. Le recordman du monde du saut à la perche, Renaud Lavillenie, éliminé dès les qualifications du saut ce soir aux Mondiaux de Doha au Qatar. Le Français a échoué à franchir 5,70 m. Sur place pour France Info, Vincent Pellegrini.
Renaud Lavillenie, effectivement, a échoué très nettement à 3 reprises à 5,70 m. Confirmation d'une saison extrêmement compliquée pour le recordman du monde. À 33 ans, il ne disputera pas donc une nouvelle finale de championnat du monde. C'est une première depuis 2010 et c'est déjà à Doha lors des championnats du monde en salle qu'il ne s'était pas qualifié. C'était la dernière fois. Renaud Lavillenie éliminé. En revanche, son petit frère Valentin Lavillenie, lui, s'est qualifié pour la finale de ce soir la perche qui se disputera ici même à Doha lundi soir.
Vincent Pellegrini et puis ça passe aussi pour Pierre-Ambroise Bosse, qualifié pour les demi-finales du 800 mètres. Demain, le Français champion du monde en titre termine 3e de sa série. Pas de podium pour les Bleus, cette fois c'est du volley. La France s'incline sèchement contre la Pologne, 3-7-0. C'était lors de la petite finale de l'Euro à Paris-Bercy. Les Français qui devront donc se contenter de la 4e place de leur Euro à domicile. Finale demain entre la Serbie et la Slovénie. À l'étranger, des Hongkongais par milliers dans les rues pour le 5e anniversaire du mouvement des parapluies, précurseur de la mobilisation qui ébranle actuellement l'ex-colonie britannique. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. À l'époque, en 2014, le cœur financier et politique de la mégapole avait été pacifiquement occupé pendant 79 jours. Et puis les Afghans aux urnes pour une présidentielle à haut terrorisme, placé sous la triple menace de la fraude, de l'abstention et des attentats, avec au moins un mort et 16 blessés. À la mi-journée, 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes.
Les informés, Neila Latrousse.
Avec Anita Auxerre, éditorialiste et ancienne chef du service politique de LCI TF1, avec Dominique de Montvallon, éditorialiste politique également, Philippe Gouliot, journaliste politique et auteur de l'incroyable septennat Jacques Chirac à l'Élysée, qui se déroule entre 1995 et 2002. Et à vos côtés, Stéphane Rosès, président de la société de conseil CAP. On va aller à Rouen. L'État se veut rassurant deux jours après le spectaculaire incendie de l'usine chimique Lubrizol. Le préfet a tenu une conférence de presse tout à l'heure.
Nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. Donc nous avons une situation normale, une situation habituelle telle qu'elle se présente en milieu urbain ici à Rouen.
Stéphane Rosès, c'est au président de la société de conseil CAP que je vais m'adresser. Est-ce que l'État a tardé à réagir sur cet incendie ? C'était jeudi, deux jours après, la panique a pris de l'ampleur. Et au final, aujourd'hui, les propos même du préfet sont contestés par une partie de l'opposition qui se demande si l'État ne cache pas des choses.
Il y a quand même, sur les questions de la préfectorale et des interventions, il y a un petit problème en ce moment. Hein. On a tous en tête la mort du jeune Steve et quand même du temps qui se passe. Hein. Bon, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que c'est ce qu'on appelle un site Céveso. Vous vous souvenez qu'à l'époque d'Yves Cochet, quand il y avait eu le très grave accident à ZDF, on nous avait expliqué que dorénavant on cartographiait tous les sites. Moi, je suis étonné, je suis pas un spécialiste de ces questions, mais évidemment, la question des origines est très importante. Il s'agit d'un site Céveso en milieu urbain. Donc, normalement, il y a des vérifications sur les sites Céveso. L'État doit faire des choses et là-dessus...
Enfin, on prétend que ça a été fait récemment.
Pardon ?
On prétend que ça a été fait récemment.
Ce site ?
Oui.
On n'est jamais à l'abri d'un accident pareil.
Du coup, est-ce que j'ai mal entendu, mais on a pour l'heure une idée des origines de...
Aucune.
Non ?
Aucune.
Et là, je n'ai pas le sentiment que le préfet se soit exprimé. Non, mais
le
c'est absolument incroyable.
Le préfet voulait rassurer sur la pollution autour du site.
Non, mais c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable.
Pour vous, il a mal communiqué, le préfet.
Écoutez, moi, j'ai en tête le très grave. Heureusement, là, il n'y a rien de grave. Heureusement. Mais bon, le minimum, c'est que ben, on dit, voilà, on recherche, on ne sait pas. Il y a différentes hypothèses. Bon, si c'est pour commenter ce que tout le monde peut voir ou comprendre, même s'il y a des discussions entre les différents élus sur les effets, c'est quand même... Tout ça me semble un peu amateur. Hein.
Anita Auxerre.
Bon, je voudrais juste dire, le ministre de l'Intérieur est allé sur place le jour même.
Oui.
Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? En revanche, il y a des images éloquentes, et notamment celle de Madame Buzyn, qui explique qu'il y a de la pollution et qui est dans un... parce qu'elle est obligée de le reconnaître, à côté de Elisabeth Borne qui se dit « Mon Dieu, elle va gaffer ». Enfin, on sent l'incertitude et l'inquiétude, finalement. Et on ne sait pas quoi dire, parce que le préfet explique bien que le taux de pollution n'est pas inhabituel, mais il peut augmenter. Les gens se plaignent, il y a des gens hospitalisés. En même temps, si on panique...
Il y avait un besoin d'assurer.
Une information alarmiste peut semer la panique dans cette agglomération de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Mais quand on explique qu'il faut consigner les productions agricoles, c'est-à-dire les fruits et les légumes, et que c'est à la charge des exploitants, il y aura forcément de la triche.
Et un principe de précaution, surtout peut-être aussi, qui s'applique à l'État.
Oui, mais enfin, il est appliqué, il faut responsabiliser, quoi.
Stéphane Rosès, évoquait à l'instant le précédent AZF, Dominique de Montvallon. Est-ce que c'est un précédent qui a conduit à changer des choses dans la gestion de ce type de catastrophe et peut-être à une prudence plus grande aussi dans la communication ?
En partie, mais en partie seulement. Et de toute façon, je pense que la référence au drame d'AZF a tout de suite ses limites, parce que nous vivons dans un monde politico-médiatique qui n'a strictement rien à voir avec ce qui prévalait à l'époque. Aujourd'hui, il y a une volonté de savoir tout de suite. Et d'ailleurs, en plus, quand on est dans l'angoisse, dans un climat anxiogène, c'est parfaitement fondé.
Et c'est ce que disent les associations. Hein. Ils veulent une transparence, elles veulent une transparence complète, disent-elles.
Moi, je dirais, de l'intervention que j'ai écoutée tout cet après-midi du préfet, que respectant le représentant de la République, mais qu'elle était peu claire. Il faut parler moins. Pardon, on revient au béaba. Il faut parler moins. Il faut dire des choses fortes qu'on puisse immédiatement avoir en tête. La volonté, comme le préfet, d'ailleurs toutes les autorités et tout le monde, c'est honnête, ne connaît pas aujourd'hui. Prenons le préfet, il ne connaît pas aujourd'hui les tenants et tous les aboutissants du drame qui s'est produit. Donc évidemment, il y a un premier scénario, je ne dis rien, c'est pas possible. Bon, après je dis...
Ça fait mais trois jours. Hein.
Non, mais ils ont échelonné leur déclaration. Tout. Je dis quelque chose, mais je suis obligé d'être honnête pour ne pas être pris à contre-pied par ce qui peut surgir, et je dis donc des choses en introduisant immédiatement des nuances. Ça va bien, mais attention,
voyez. On sait jamais.
Et on sait jamais. Et je ne peux pas non plus dire aujourd'hui, ni les causes de ce qui s'est passé, avec une grande générosité, un des représentants de l'entreprise a fini quand même par surgir pour nous dire, je suis très étonné parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne devait pas se passer là, parce qu'à cet endroit-là, il n'y avait aucune raison que ça se passe.
Effectivement.
Nous sommes embarrassés.
On comprend.
La communication de crise est incroyable.
Alors là, le gouvernement est dans une situation extrêmement délicate, dont la prestation tardive du préfet n'arrange pas. Je pense qu'il sera temps que le plus vite possible, sans prétendre tout savoir, le Premier ministre, qui est un havrais de surcroît, interviennent.
Rapidement, ce qui est certain, c'est qu'en termes de réaction de l'opinion, pour les Français, contrairement aux autres pays, c'est toujours l'État le responsable. Dans les responsabilités entre le privé et l'État.
Pas. Absolument, tu as tout à fait raison.
Contrairement aux autres pays, hein, même si, essentiellement, normalement, c'est l'entreprise. Hein, le problème, c'est l'entreprise et la communication de crise de l'entreprise est très mauvaise. Mais spontanément, on regarde l'État. C'était à l'État de prévenir, de contrôler, de s'assurer que l'entreprise privée fonctionnait bien.
Merci Stéphane Rosès. Guillaume Fariol nous a rejoint pour le rappel de l'information. Il est 20h40 sur France Info.
François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valérie Giscard d'Estaing seront tous les trois à l'église Saint-Sulpice à Paris lundi pour rendre hommage à Jacques Chirac. Une cérémonie organisée à la mi-journée présidée par Emmanuel Macron. Une trentaine de dirigeants étrangers également attendus. Avant cela, demain, hommage populaire à l'ancien président de la République aux Invalides à partir de 14h. Tous ceux qu'ils souhaitent pourront venir se recueillir auprès du cercueil de l'ancien président. Des députés de gauche réclament l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Il faut faire toute la vérité, dit sur Twitter Olivier Faure, patron du Parti Socialiste. Les résultats de nouveaux tests présentés aujourd'hui par le préfet de Seine-Maritime. La qualité de l'air est normale, selon lui. L'enquête judiciaire ouverte hier élargit cet après-midi à la mise en danger de la vie d'autrui. Des dizaines de milliers de personnes à Paris pour la Technoparade 21e édition cet après-midi dédiée à Steve Canisso, ce jeune homme mort pendant la fête de la musique à Nantes et une opération policière controversée. Il était fan de musique électro. Gaz lacrymogène contre jet de pavé et cocktail Molotov à Hong Kong cet après-midi. Des débordements pendant une nouvelle manifestation pro-démocratie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées. Cette manifestation organisée aussi pour le 5e anniversaire du mouvement des parapluies, précurseur de l'actuelle protestation. Et puis pas de podium pour les Français à l'Euro de volley. Ce soir, la France sèchement battue en 3-7 par la Pologne dans la petite finale. Demain soir, la finale de la compétition. La Slovénie affronte la Serbie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neila Latrousse.
Guillaume Fariol l'évoquait à l'instant. La gauche demande une commission d'enquête parlementaire après l'incendie sur le site chimique de Rouen. Anita Auxerre, vous vouliez réagir?
Oui, je trouve. Évidemment, c'est la réaction classique de l'opposition quand elle ne sait pas quoi dire, parce que c'est pas une commission d'enquête parlementaire qui va déterminer les origines de cette catastrophe. Il y aura forcément une enquête judiciaire qui va être ouverte et
plusieurs plaintes auprès du.
Bien sûr. Enfin, pas seulement à cause des plaintes, parce que c'est naturel, c'est normal qu'il y ait ouverture d'enquête. Par conséquent, une commission d'enquête parlementaire ne servirait à rien. Mais chaque fois qu'un élu demande une commission d'enquête parlementaire, il y a un effet d'annonce, de résonance, et on a l'impression que tout va être réglé.
Et autre effet d'annonce, peut-être, hein, on en débat en tout cas dans les informés, celui de Marion Maréchal, pas Le Pen, hein, puisque ça a été supprimé de son patronyme. Elle faisait son retour aujourd'hui avec une ambition, mais jure-t-elle, pas de candidature ni de création d'un mouvement politique. Yannick Falt, vous avez suivi les débats toute la journée pour France Info. Marion Maréchal Le Pen a dû finir de parler à l'heure où on vous joint. Est-ce qu'il faut retenir des choses de son discours et que faut-il en retenir d'ailleurs?
Oui, un discours de plus en plus programmatique. Marion Maréchal développe ses fondamentaux, la famille, pour mieux dénoncer la GPA, même si elle n'est pas d'actualité, contrairement à la PMA pour toutes, qui vient d'être votée, l'immigration, en développant la théorie du grand remplacement, mais pas que. L'ancienne députée parle aussi écologie, armée, aménagement du territoire, alliance diplomatique, le goût et la couleur d'un projet qui se construit, tout en prévenant, n'attendons pas l'homme ou la femme providentielle, j'entends les impatiences, mais il faut d'abord briser les barrières, celles qui séparent toujours les différentes droites. Marion Maréchal, qui semble suivre la stratégie de Nicolas Sarkozy après son départ de l'Élysée, se rappeler au bon souvenir des Français et de sa famille politique sans entrer en campagne, la stratégie dite des cartes postales.
Pour autant, Yannick Falt, est-ce qu'elle était la vedette du jour ou est-ce qu'Éric Zemmour a attiré un peu plus les lumières vers son discours? Il parlait avant elle, hein, je crois, dans cette journée.
Oui, il a effectivement un peu volé la vedette à Marion Maréchal, car le polémiste a tenu des propos particulièrement violents en début d'après-midi sur la PMA et le genre sexuel, sur le style vestimentaire de Sibeth Ndiaye, vous savez, la porte-parole du gouvernement, et surtout contre l'islam et l'immigration, en allant plus loin que Marion Maréchal sur cette théorie du grand remplacement. Éric Zemmour, qui appelle même les jeunes à se battre face à ce qu'il appelle une colonisation, lui qui a déjà été condamné pour provocation à la haine religieuse, ajoutons qu'il a eu droit au même temps de parole que Marion Maréchal, une demi-heure.
Merci Yannick Falt, vous étiez avec François Rivalan pour les moyens techniques. Philippe Gouliot, petite question, aujourd'hui c'était Marion Maréchal Le Pen contre sa tante ou c'était Marion Maréchal en primaire contre Éric Zemmour au final?
Non, je pense que c'est plutôt quand même pour l'instant Marion Maréchal contre Marine Le Pen, qui a évidemment snobé cette rencontre, cette convention, et qui en a profité pour annoncer qu'elle irait lundi à la messe de Jacques Chirac, pour se placer finalement sur un niveau égal à Emmanuel Macron, pas égal, mais enfin, pour essayer de se rapprocher, pour jouer dans la cour des grands, on peut dire. Non, je pense que c'est vraiment plutôt la bagarre familiale que l'on a vue. D'ailleurs, sur les images, c'était amusant de voir que Marion Maréchal était avec son père, Samuel Maréchal. Enfin, donc, on fait vraiment de la politique en famille chez les Le Pen.
Avec son père, mais aussi enfin au premier rang de la convention, avec Vincenzo Sofo.
Son compagnon italien, oui, ouais. Qui est du mouvement de Matteo Salvini. Évidemment, Éric Zemmour a tenu la vedette dans cette convention, mais bon, pour l'instant, que je sache, il ne fait pas de politique, enfin en tout cas il ne recherche pas de mandat électif, on verra par la suite.
Dominique de
Montvalon. On verra quel sera le destin politique de Marion Maréchal. C'est déjà étonnant de voir les lumières qu'elle attire à l'âge qu'elle a, et avec quand même au total le peu d'expérience et logique.
L'âge qu'elle a joue peut-être beaucoup dans cette façon d'attraper les lumières.
Peut-être. En tout cas, moi je propose de ne pas nous polariser sur l'idée d'une primaire ou d'un combat entre Éric Zemmour et Marion Maréchal. Je suppose si un jour ça arrivera, c'est pas du tout le problème. Je pense qu'il y a un partage des rôles, et le temps qui a été accordé à Éric Zemmour et le fait qu'il ait ouvert cette convention, c'est un choix délibéré et assez tactique et ou stratégique de la part de Marion Maréchal. Juste une dernière chose, j'ai écouté Éric Zemmour. Je pense qu'il n'est pas excessif de dire qu'il a tenu sur l'immigration le discours le plus violent qui ait été tenu depuis, je dirais, presque les débuts de la Ve République.
Je veux dire
très clairement qu'il était bien... Peut-être que certains diront que la situation le justifie, ça, chacun son avis. Il était très clairement bien au-delà... dans la violence des propos, dans l'âpreté de son langage, dans les formules qu'elle a utilisées, bien au-delà des propos discutés à l'époque pour d'excellentes raisons, tenus autrefois par Jean-Marie Le Pen ou même en mineur par Marine Le Pen.
Et on va les rappeler juste ces propos. Hein, oui, il a évoqué les immigrés colonisateurs, l'alliance de la Kalachnikov et de la Gelaba. Effectivement, Anita Hausser, vous avez trouvé qu'il allait plus loin que Jean-Marie Le Pen en son temps?
Moi, je n'ai pas écouté son discours, hein, mais s'il a tenu ces propos-là, oui, bien sûr, il va plus loin que Jean-Marie Le Pen. Non, ce que je voudrais dire à propos du rassemblement, enfin, de la convention de Marion droite. Maréchal, c'est, elle, idéologiquement, elle est en opposition avec sa tante, puisque elle veut réunir les droites. Et les discours qui ont été tenus cet après-midi ne vont pas du tout dans le sens du rassemblement, parce que Marine Le Pen dit, on gagnera avec le Front National.
Justement, on va l'écouter. Ouais. On va l'écouter, Marine Le Pen, puisque vous la citez, il y a quelques jours, une dizaine de jours à Fréjus, sur justement cette union des droites.
Nous entendons beaucoup parler d'union avec la droite. Mais nous voulons-nous aller vers la fraternelle ambition de l'union nationale? L'union nationale avec un projet d'unité nationale. Et après tout, quoi de plus normal pour des nationaux? Les étiquettes partisanes sont un peu réductrices. Tous les Français, d'où qu'ils viennent, ont vocation à nous rejoindre et à participer au combat pour le redressement de la France.
Anita Hausser, pour finir, ça s'abondait sur votre propos.
Le discours d'Éric Zemmour ne va pas du tout dans le sens du rassemblement. Et moi, j'aurais voulu voir la tête des élus LR qui étaient dans la salle.
Il n'y en avait pas beaucoup, apparemment. Stéphane Rosès.
Zemmour, d'abord, tout à fait d'accord sur le caractère absolument scandaleux de ce discours d'Éric Zemmour dans un amalgame total entre l'immigration, l'islam et les islamistes. Tout ça, c'est du ressort différent. Et tous ceux qui confondent les musulmans avec les islamistes qui existent en France, qui œuvrent et qu'il faut combattre, sont là pour diviser la France et les Français. Donc le discours de Zemmour était absolument scandaleux et je crois que même Jean-Marie Le Pen n'a jamais tenu des propos de cette nature. Il faut être très clair. Maintenant, sur le fond, je ne comprends pas Marion Maréchal Le Pen. Toute la progression du passage du Front National au Rassemblement National, c'est en fait d'opérer une lente mutation partant de l'idée qu'il y aurait d'un côté, c'est ce que veut faire Marine Le Pen, les souverainistes, et de l'autre, les cosmopolites, les ultralibéraux, les néolibéraux. Bon. Et la ligne Marion-Maréchal-Zemmour, c'est la ligne Buisson. Je crois que Marine Le Pen veut entraîner une lente mutation vers quelque chose de plus gaullien et souverainiste. Et c'est pour ça qu'elle veut aller à l'enterrement de Jacques Chirac. Il y a un lien intime. C'est pas seulement la respectabilité. C'est qu'elle est en train, peu à peu, elle a fait un terrible débat qui l'a fait retourner en arrière, mais avec les européennes, elle a repris la marche vers la mutation du Front National, de sorte de ne plus apparaître comme un repoussoir pour la prochaine européenne. C'est ça qu'elle a compris. Et le propos de Marion Maréchal est absolument baroque.
Stéphane Rosès, ce sera quel espace politique pour Marion Maréchal Le Pen? Mais d'abord, 20h50, le rappel de l'information avec Guillaume Fariol.
Le préfet de Seine-Maritime rassure 2 jours après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. La qualité de l'air est normale à Rouen. Les résultats de nouveaux tests dévoilés aujourd'hui en ce qui concerne la suie tombée de l'immense panache de fumée noire. Pas de toxicité aiguë d'après ces analyses. Près de 5000 personnes sont venues signer les registres de condoléances à l'Élysée depuis la mort de Jacques Chirac. Ces registres quitteront le palais pour les Invalides demain. Les Invalides où se tiendra à partir de 14h. Un hommage populaire à l'ancien président. Puis lundi, jour de deuil national, une cérémonie en l'église Saint-Sulpice à Paris, service présidé par Emmanuel Macron. Une trentaine de dirigeants étrangers attendus, parmi eux Vladimir Poutine, le président russe. Des vents forts, un coefficient de marée élevé, le Pas-de-Calais placé en vigilance orange, vague submersion par Météo France. Épisode attendu demain à partir de 11h. Prudence donc en bord de mer. C'est la mi-temps dans 5 matchs de Ligue 1 de football. 8e journée, un partout entre Nice et Lille. Pareil pour Reims, Dijon. Monaco mène 1-0 face à Brest. Plus tôt cet après-midi, nouvelle défaite de Lyon 1-0 à domicile face à Nantes. Paris s'impose à Bordeaux 1-0 là aussi. Et puis, j'ai manqué de rythme. Quand ça veut pas, ça veut pas. Les mots de Renaud Lavillény, le français éliminé dès les qualifications du saut à la perche aux mondiaux d'athlétisme de Doha. C'est pourtant le détenteur du record du monde.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Un discours programmatique donc pour Marion Maréchal, une alternative, conservatrice qu'elle souhaite construire, mais elle jure en être candidate à rien. Philippe Gouliot, quelle est sa stratégie au fond? Est-ce qu'il n'y a pas un côté diva, venez me chercher?
Probablement un peu, mais je crois aussi que, après tout, les choses sont très mouvantes. Et qu'elle ne sait peut-être pas exactement très bien comment ça se passera en 2022. On ne le sait pas davantage.
Elle pose un acte, comme on dit.
Elle pose un acte. C'est vrai que l'élection présidentielle de 2017 a montré que les choses pouvaient aller très vite. Et c'est vrai aussi qu'il y a toute une partie de l'électorat de droite qui se dit, après tout, si on trouvait notre Macron pour 2022, c'est-à-dire une personnalité jeune, nouvelle, qui renouvelle un peu les vieilles barbes, quoi. Enfin, ce qu'on a vu beaucoup et que on ne veut plus trop voir, et qui puisse incarner une droite plus moderne, ouverte aux questions d'environnement. Et peut-être que certains se disent, après tout, le profil idéal, c'est Marion Maréchal. La base est étroite quand même, parce que elle s'appuie sur... elle espère que les Républicains vont s'effondrer, qu'elle récupérera la donne. C'est pas sûr, tout ça.
Surtout,
les Républicains résistent quand même.
Et qui au sein des Républicains?
Et qui au sein des Républicains? Donc, et Raphaël Entoven, qui participait à cette convention et qui a mis son texte, un très long texte, mais très intéressant, sur le site Figaro Vox, lui, il pense qu'ils sont dans une impasse. Une impasse où il y a beaucoup de monde, mais une impasse quand même.
J'ai regardé son discours. Il dit, vous êtes beaucoup trop réac pour gagner quoi que ce soit.
Voilà.
Et il a raison. Je crois que là, il a raison. Oui, qu'on a entendu cet après-midi, oui.
Je crois, j'avais écouté, parce que vous savez que Marion Maréchal n'a pas pu aller à l'université de rentrée du MEDEF. Donc, elle avait préparé un texte. Et je me suis dit, comme tous, hein, il y a beaucoup de gens à droite qui disent, mais c'est peut-être l'avenir, c'est peut-être elle l'avenir. Sûr. Donc, je me suis dit, je vais aller voir son texte. Et c'est une sorte de bric-à-brac d'élèves de terminale dont on a le sentiment qu'elle ne maîtrise pas ce dont elle parle. Et la seule explication, puisqu'elle est intelligente, c'est de se dire qu'elle essaye de marier des torchons et des serviettes. Un discours sur les questions identitaires, très nationales, restauration de trucs, et au plan économique, très, très lié. Très libéral, donc bref,
on sent pas. C'est son identité propre.
Oui, mais ça, c'est 5. Oui,
mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut.
Ça, c'est 5% dans le pays.
Non, hein, mais
c'est
Dominique de Montvalon. Écoute, on a été amené à constater tellement d'éléments qu'aucun d'entre nous et beaucoup d'autres, plus personne n'avait imaginé, que gardons-nous de tout pronostic. Moi, je dirais deux choses. Je voudrais insister sur deux petites choses. Premièrement, elle a, quoi qu'on pense d'elle et de son discours, de sa démarche, de l'impasse peut-être dans laquelle elle se retrouve, elle a un indiscutable talent.
Hein. Et ah oui, c'est certain.
Non, mais je le dis, parce que sinon, cette jeune femme de 30 ans, je ne vois pas pourquoi on s'intéresserait à ce qu'elle raconte, aux carences de son propos, etc. Et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'étrange et dont il ne faut pas sous-estimer l'impact possible. Et puis la deuxième chose, c'est que tout son pari, il sera réalisé ou pas, repose sur l'échec de la stratégie de sa tante. Si Marine Le Pen est dans une impasse, eh bien une partie de la droite, pas toute la droite, l'extrême droite et une partie de la droite pourront peut-être, c'est pas un pronostic, mais peut-être se tourner vers elle en disant, et après tout, si on tentait la nièce.
Et vous évoquez Marine Le Pen, elle a réagi ce matin, avant même le début de la convention de la droite, avec un brin d'ironie sur cette réunion qu'elle a pris un malin plaisir à commenter. Écoutez.
Oui, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien de faire des conventions, de parler, d'agiter des idées. J'attendrai avec impatience de voir s'il y a des éléments qui sortent de cette convention et qui permettent effectivement d'élargir électoralement l'audience de ceux qui défendent la France.
Philippe Gouliot, on sent l'ironie dans la voix
Beaucoup
peu.
D'ironie.
Elle a l'air de prendre ça un peu à la
beaucoup
légère,
d'ironie.
Cette convention. Est-ce qu'elle a tort
hein. Oui, je crois qu'elle peut dormir
elle
tranquille,
effectivement.
Elle
ne prend pas ça tout à fait à la légère, elle est profondément agacée.
Elle est agacée, mais quand même.
Elle est agacée quand on parle de Marion Maréchal.
Bah oui, de l'écho. On verra si ça se traduit dans les urnes. Peut-être
oui,
zéro.
Honnêtement, je pense quand même qu'elle a un temps d'avance sur sa nièce aujourd'hui. On verra bien.
Dans ce cas-là, on aurait pu imaginer, mais attendez, je note ça en journaliste, on aurait pu imaginer qu'elle ne réagisse pas, si c'est sans importance, sans impact.
Elle a réagi avant.
Et puis en plus, elle savait bien qu'on allait lui tendre un micro, donc c'est normal qu'elle réagisse. Mais je trouve que sa réaction est assez bonne.
Philippe Gouliot, pardon, je vous avais coupé le mot de la fin, Anita Auxerre, 30 secondes.
Moi, je suis très surprise, par exemple, quand on parle d'union des droites, d'entendre des discours aussi extrémistes. Voilà, c'est tout.
C'est vrai.
Ah ben, clairement, Zemmour et Buisson, quand ils pensent union des droites, c'est sur la base de la droite, voire de l'extrême droite maurassienne.
La droite hors les murs
mais
est
donc,
très à droite.
Il a voulu, on a compris ce qu'a voulu faire Zemmour, hein, c'est que union des droites, mais quand même sur la ligne. Par contre, ce que veulent pas Zemmour et Buisson, c'est l'idée que peu à peu, ça devienne un parti gaullien, comme les autres souverainistes et
républicains.
Merci à vous quatre. Merci Stéphane Rosès, président de la société de conseil CAP, Anita Auxerre, éditorialiste, Dominique de Montvalon, éditorialiste politique également, et Philippe Gouliot, journaliste politique et auteur de l'incroyable septennat Jacques Chirac à l'Élysée, 95-2002. On se retrouve demain. Bonne soirée sur France Info.